Vous êtes sur RTL.
RTL.
C'est vrai que j'ai besoin de manière vitale de confronter l'individu à la mer, de confronter mes histoires à la mer et mes personnages. Ça fait partie de ma respiration et mes livres aussi respirent de l'océan.
Le journal inattendu.
Un romancier, c'est d'avoir quelqu'un qui manifeste une présence sensorielle. Il n'y a pas de doute, hein, c'est ma mère d'ailleurs qui m'a enseigné ça. Elle me disait, pour une rédaction, adresse-toi uniquement à tes cinq sens. On doit trouver ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu touches, etc., etc.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Yann Kefelec avec Ophélie Meunier sur RTL.
Kefelec est un nom gallois et nous avons fait courte en Bretagne au 5e siècle et cela nous ne l'oublierons jamais.
Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Ophélie Meunier.
C'est un plaisir de vous recevoir dans le journal inattendu. On est ensemble une heure en direct pour découvrir votre regard sur l'actualité. Dans cette émission, on naviguera, on fera un tour en Bretagne, on parlera aussi musique et bonne table et bien sûr de votre dernier livre, La mer et au-delà, publié aux éditions Calman Lévy. C'est un récit bouleversant dans lequel vous rendez hommage et redonnez vie à Florence Artaud. Pas besoin d'être un voileux aguerri pour être touché par ce qu'on lit et par le destin incroyable de cette femme. Dans ce livre, vous faites donc le portrait de Flo, Florence Artaud, que vous avez bien connue, avec qui vous avez partagé des moments marquants. Et pourtant, vous avez la pudeur de ne pas trop parler de vous. Je vais tout de même vous demander de vous prêter à cet exercice, celui de parler de vous, car le journal inattendu commence toujours par l'autoportrait. Alors Yann Kefelec, qui êtes-vous? Vous avez une minute pour vous présenter.
Je n'en sais rien qui je suis, ni de quoi j'ai l'air. Est-ce que je me reconnaîtrais seulement si je me rencontrais dans la rue? Le peu que je sais de moi se résume à l'amour total de la vie que j'ai reçue. Total lorsque j'étais enfant, petit batteur de grève en Bretagne. Total aujourd'hui. Aime et fais ce que tu veux. Telle était la devise morale de ma mère. Un impératif catégorique, un défi à la bonne volonté. Je n'ai rien fait d'autre toute ma vie que choyer l'instant présent, jour et nuit, au risque de me perdre. Je suis un lève-tôt, un couche-tard, un gourmand sans limite, un gourmet sans limite, un romantique effréné, un écrivain constamment tiraillé entre le vivre et le livre, entre la mer et la page. J'espère un jour lointain m'en aller sur ces derniers mots. Merci mon Dieu pour la beauté des femmes et merci pour les enfants qu'elles enfantent.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui et j'invite les auditeurs d'RTL à se connecter pour voir le cahier de Yann Kefelec. Vous avez écrit cet autoportrait au stylo dans votre cahier.
Tout à fait, sur un cahier chinois, fabriqué par des femmes sur les berges du fleuve Amour dans la plus vieille papeterie de Chine.
Et tout de suite, c'est l'actualité de ce samedi 21 novembre. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Jonathan Daval. Nous serons en direct de Vesoul avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Il suit depuis plusieurs jours pour nous un procès sous haute tension. Verdict attendu ce soir. Je rappelle que Jonathan Daval est devant la justice pour avoir tué sa femme Alexia en 2017. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes de France aujourd'hui contre le fameux article 24 de la loi sur la sécurité globale. L'amendement réécrivant cet article a été voté hier soir. Alors que dit-il? Pourquoi fait-il débat? Toutes les explications dans un instant. Le président Macron devrait confirmer dans sa prise de parole de mardi la réouverture des commerces dès le week-end prochain. Un soulagement pour les petits patrons. En attendant, les premières courses de Noël peuvent commencer. Il est désormais possible d'acheter son sapin et vous êtes nombreux à l'avoir fait dès ce matin. La météo, Valérie Quintin, s'est ensoleillée cet après-midi, mais tout de même un peu frais.
Oui, alors c'est vrai que les températures sont quand même franchement basses. Pour autant, elles sont de saison. Alors du soleil, on va en avoir partout. Presque partout. Près des côtes de la Manche, ça va être un petit peu plus nuageux. On attend quelques pluies, pas grand-chose entre le Cotentin et les Hauts-de-France. Et puis, on a localement encore des poches de grisailles qui persistent, qui vont se lever. C'est le cas dans la Bresse, dans le Haut-Rhin, dans le Mont-Albanais ou encore sur les hauteurs provençales. Pas de panique, tout va bien, le soleil arrivera cet après-midi. Notez qu'il y aura toujours beaucoup de vent dans le sud et notamment en Corse avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur le Cap Corse. Les températures cet après-midi, au maximum, 8 à Verdun, 9 à Mâcon, 10 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, à Albi, à Niort, 13 degrés pour Nantes et Cherbourg, 15 à Montpellier et 17 à Toulon.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 18h, puisque à 13h, c'est vous qui ferez la météo, Yann Kefelec, une fois n'est pas coutume. Mais vous êtes content, je crois.
Oui, je suis ravi. En plus, j'ai bien préparé ma météo.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est ce soir que Jonathan Daval devrait être fixé sur son sort. Devant les assises de Haute-Saône, il s'est dit prêt à payer pour le meurtre de sa femme Alexia, tuée en octobre 2017. Au terme d'un procès rythmé par des échanges intenses entre les deux parties, les réquisitions ont été rendues ce matin. Bonjour Samuel Goschmidt, envoyé spécial de RTL. Vous suivez pour nous le procès. Quelles sont les dernières informations de cette journée ?
Je vous demande de prononcer une peine de réclusion à perpétuité. Voilà les mots forts de cette matinée vers 11h, ceux de l'avocat général qui représente la société. Je vous demande de prononcer une peine de réclusion à perpétuité. Je fais confiance à votre sagesse, votre décision sera la bonne. Voilà la demande qui est venue conclure 5 jours de débat, ses arguments. Et ce qui était intéressant, c'est d'avoir la vision de l'avocat général qui est aussi le procureur de Vesoul. C'est donc lui qui a dirigé les premiers pas de l'enquête et a vu Jonathan Daval dès les premiers jours. Et il explique que dès la première audition un peu poussée de Jonathan Daval le samedi soir, les gendarmes ont eu des doutes. Le problème, c'est le mensonge dans lequel Jonathan Daval s'est précipité dès la nuit même du drame, sans doute. Il y a 3 morts que vous devez juger, dit l'avocat général. La mort d'Alexia, la crémation de son corps et la mort symbolique de la famille trompée pendant 3 mois. Si l'on n'avait pas retrouvé le corps, c'était le crime parfait pour Jonathan Daval qui pouvait continuer à rester dans le cocon familial des Fouillot. Le mensonge, la fabulation, c'était pour rester dans le cocon. Le mensonge illustre le fonctionnement de Jonathan Daval. 14 déclarations pendant toute l'instruction, 6 versions différentes de ses actes. L'avocat général a donc demandé à ce que ce mensonge pèse très lourd dans la décision qui va être prise après le délibéré et les plaidoiries de ses avocats qui ont lieu en ce moment.
Merci Samuel Goldschmidt. On vous retrouve dans RTL Soir pour suivre ce verdict très attendu. Yann Kefelec, c'est une histoire atterrante, hein, peut-être inspirante pour un écrivain comme vous.
Oui, alors l'avocat général déplore 3 morts. Je le suis. Moi, j'ajouterai un mort supplémentaire. C'est l'enfant que souhaitait mettre au monde Alexia et qui lui aussi a disparu dans cette lamentable affaire.
Dans l'actualité également, l'article 24, article le plus controversé de la future loi sur la sécurité globale, a finalement été adopté hier soir. Alors que dit-il ? Ce texte pénalise la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre, mais l'amendement qui réécrit cet article assure préserver aussi la liberté d'informer. Malgré cela, de nombreux journalistes, collectifs de défense des droits humains et partis politiques de l'opposition estiment que la loi sur la sécurité globale est liberticide. Des manifestations ont lieu aujourd'hui à Rennes, à Marseille ou encore à Lille, où notre correspondant Antoine Decarne a rencontré Gérard Minet, secrétaire régional de la Ligue des droits de l'homme.
L'objectif, c'est de faire que les citoyens ne voient rien, n'entendent rien et surtout ne disent rien. Si on met des drones, si on interdit de photographier les policiers, si on empêche les manifestations dans le centre-ville et si on les détourne dans les quartiers où il n'y a personne, il est évident que ce qui est en jeu, c'est qu'on veut casser le droit à l'information, le droit à la protestation et le droit à la manifestation. Et l'amendement Darmanin pour changer l'article 24 ne change rien à la démarche et à l'intention qui est celle de casser le mouvement démocratique.
Propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Une autre manifestation est prévue place du Trocadéro à Paris aujourd'hui à partir de 14h30. Concernant les dernières nouvelles de la circulation du virus en France, même si les indicateurs restent à des niveaux élevés, le pic épidémique de la seconde vague a été franchi, selon Santé publique France. Si la situation sanitaire le permet, le président Emmanuel Macron devrait officialiser mardi soir la réouverture des magasins dès le week-end prochain. À quelques semaines de Noël, c'est une réouverture vitale pour la survie de nombreux commerces. Ces derniers devront notamment étaler leurs plages horaires pour éviter des flux de clients trop importants. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez dès maintenant choisir et acheter le sapin de Noël qui décorera votre maison en cette fin d'année. Dès ce matin à Nantes, Laurent, papa de 3 enfants, n'a pas tardé. Il achète toujours très tôt son arbre et veut absolument que Noël soit une réussite pour sa famille.
C'est des fêtes qui seront de la même teneur que les précédents. Et puis c'est une fête annuelle, il ne faut pas la rater celle-là. Quoi. C'est comme Pâques, c'est un plaisir, c'est surtout pour les enfants. Bah, ils sont contents. Hein.
Alors je charge mon sapin dans la voiture.
Et ben, je vais aller le décharger, je vais le mettre sur ma terrasse, je vais enlever le film plastique pour qu'il prenne un peu sa forme. Et puis je le rentrerai dans 15 jours dans la maison pour pouvoir le décorer. Je ne vais pas le décorer tout de suite, on a encore un peu de temps. C'est juste de l'anticipation pour éviter les ruptures. C'est de la prévoyance parce qu'on veut éviter la cohue. Des petits plaisirs. Ça sera.
En effet, il est prévoyant, Laurent. Il était au micro de Mathieu Lopineau. L'an dernier, près de 6 millions de sapins ont été achetés en France pour un budget moyen d'environ 30 euros. Je sais que vous avez une petite fille, Yann Kefelec, elle est sensible au sapin de Noël. Elle aime le décorer, les boules et tout ça.
Mais elle n'arrête pas de parler de sapin de Noël. Donc, il n'y en a pas encore à la maison. Il y en a un dans sa crèche. Et je pense que dans les jours qui viennent, elle aura son sapin chez elle.
Il va y avoir un sapin à la maison chez les Kefelec. Dans un instant, on part à Vertou, près de Nantes, où des habitants se battent pour sauver leurs arbres. Une histoire que nous suivons depuis plusieurs semaines dans le journal Inattendu. À tout de suite.
RTL. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Yann Kefelec et Ophélie Meunier. Il y a un mois, dans le journal inattendu, Bruno Solo était à votre place, Yann Kefelec. Il était notre invité et à sa demande, nous entendions des habitants de Vertou, près de Nantes, qui s'opposaient à l'abattage d'une quarantaine d'arbres dans un parc apprécié des promeneurs, le parc de la Sèvre. Après une rencontre début novembre avec le maire de la ville, ses riverains se sentaient rassurés, les arbres devaient être sauvés. Mais cette semaine, 8 ont été tronçonnés en pleine nuit. Une opération éclair qu'il dénonce avec tristesse et colère. Cathy Turgis, présidente de l'association de sauvegarde de l'environnement de Vertou, est au micro de Patrice Gabart.
Ça a été vraiment une énorme surprise. À 8h du matin, des appels qui nous font venir sur place et là on s'aperçoit, les arbres ont été coupés. Il y a 4 arbres à la suite qui sont enlevés et un peu plus loin 3 arbres, donc dans un alignement en plus qui est interdit par la loi. Et de l'autre côté, il y a un platane aussi qui a été enlevé dans un alignement également. Tout a été évacué, on n'a pas retrouvé d'ailleurs les arbres tout de suite, on a retrouvé les troncs cachés sur un terrain à côté quelques heures après. Franchement c'est terrible. Quand on a vu ça, ça vous prend à la gorge. En fait on veut croire à l'humain, puis finalement il y a une hypocrisie énorme, on nous a fait croire des choses, on avait envie d'y croire. Là aujourd'hui on a déposé des croix. CJ, HN, qui a été, voilà, des choses comme ça. On a mis des phrases posées sur les souches pour montrer que ce sont des êtres vivants et qu'on les a tués, en fait. On a lancé un recours. Ce que l'on demande, c'est qu'il n'y ait plus d'autres arbres abattus.
Propos recueillis par Patrice Gabart pour RTL, Yann Kefelec, la préservation de notre environnement. On en parlera aussi avec vous à 13h avec votre reportage inattendu. Vous dénoncez la création d'un parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc. Les sports, avec tout d'abord les résultats de la 11e journée de Ligue 1 de football. Hier soir, Rennes a été battu par Bordeaux, 1-0. Et puis soirée compliquée pour le PSG, les Parisiens menaient 2-0 en début de rencontre et finalement, Monaco a renversé le PSG à la 83e minute, score final 3-2 pour Monaco. Match à suivre aujourd'hui, Brest-Saint-Etienne, c'est à 17h. La rencontre Marseille-Nice, elle, est reportée. Vos rendez-vous foot sur l'antenne d'RTL, c'est à 18h30. On refait le match avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot jusqu'à 22h. Et puis un point sur le Vendée Globe, ça c'est pour vous, Yann Kefelec. Le skipper français Thomas Ruyant a dépassé cette nuit le gallois Alex Thompson. Et a donc pris ce matin la tête du classement. Ruyant affiche désormais 23,5 000 nautiques d'avance sur Thompson. On reste en mer avec votre dernier livre, La mer et au-delà, aux éditions Kalman Lévy. Ce texte, vous avez commencé à l'écrire 5 ans avant JC. Alors contrairement à ce qu'on peut tout de suite penser, JC ne veut pas dire Jésus-Christ pour vous, Yann Kefelec, mais...
Jour du confinement, jour, oui, c'est un clin d'œil.
Jour ça. Du confinement. 5 ans avant jour du confinement, c'est donc en 2015. Je nous remets dans le contexte de ce mois de mars 2015. Le soir du 9 mars, nous découvrons tous aux infos un terrible accident. En plein tournage d'une émission prévue d'être diffusée sur TF1, l'équipe et les candidats sont en Argentine. Et là, 2 hélicoptères se percutent, prennent feu, 10 personnes décèdent. Et parmi les victimes, il y a votre amie, Florence Artaud, qui était candidate de l'émission. À ce moment-là, vous êtes choquée. C'est ce que vous nous expliquez dans votre livre. Vous n'avez voulu parler à personne, alors qu'est-ce que vous avez fait ?
Je suis sidéré, je ne m'y attends évidemment absolument pas, donc j'ai ouvert la télé par hasard, et ma première réaction, c'est de me précipiter sur le premier morceau de papier qui passe, et d'écrire, d'y jeter les mots d'une espèce de poème exprimant la rage, la tristesse, je ne sais quoi, et c'est probablement à ce moment-là qu'a commencé le livre que j'ai fait en prose sur Florence Artaud par la suite.
Oui, donc ce poème, ces premiers mots du poème, on les découvre, hein, on le découvre dans les premières pages de ce livre. Vous vous arrêtez, une phrase même pas terminée d'ailleurs, du poème, et puis plus rien sur Florence Artaud, Flo, pendant 5 ans. Mars 2020, jour de confinement. Le premier confinement est décrété, vous reprenez votre poème et votre plume d'écrivain et vous écrivez ce livre bouleversant sur Florence Artaud. Alors pourquoi vous avez fini par le faire 5 ans plus tard? Quel a été le déclic?
Au moment où j'ai vu l'accident, moi j'étais lancé dans un autre livre. Je devais cet ouvrage à mon éditeur, donc j'ai commencé par terminer ce livre. Ensuite, au moment du confinement, je me suis aperçu que j'avais un temps de latence, de vacances dans mon calendrier, et pratiquement de vacances totales avec ce qu'on était en train de vivre. Donc j'ai dit à Florence, je lui ai dit en prose, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, maintenant j'ai le temps. J'étais toujours dit que je n'avais pas le temps d'écrire un livre avec toi de ton vivant. Eh bien, tu n'es plus là, mais moi j'ai le temps de faire ce livre et je m'y mets.
Alors pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que c'est savoureux, votre première rencontre avec Florence Artaud.
Oui, c'est savoureux, c'est pas très honorable, mais bon.
À
ce moment-là, j'ai un magnifique bateau, Baba Yaga, que je me suis acheté avec les revenus du prix Goncourt. Je viens d'avoir le prix Goncourt et je suis extrêmement content de moi, il faut bien le dire, tout en ayant l'impression de ne pas avoir changé. Finalement, j'ai une sorte de grosse tête et lorsque je rencontre les autres, j'estime que c'est à eux de me reconnaître et pas à moi de m'apercevoir qu'ils sont soit Pierre Bachelet, soit Florence Artaud. Il se trouve que j'ai à mon bord, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Florence Artaud et Pierre Bachelet, et je ne les reconnais pas. On part faire un tour en mer et au retour, il y a une équipe de télévision. Alors je m'étonne tout de même de la compétence de Florence Artaud chaque fois qu'il est question comme ça de petites choses maritimes quand nous sommes sur l'eau. Et je lui dis, mais en fait vous y connaissez un petit peu en voile. Elle me dit, ah bon, vous croyez? Je lui dis oui.
Et elle se moque un peu de vous quand même.
Ah bien sûr, elle se moque de moi, mais à aucun moment elle ne me dit ce qu'elle vient de faire, qu'elle vient de remporter la course du Rhum à travers l'Atlantique. Elle ne
c'est
me le
fou.
Dit
et
pas.
Vous ne la reconnaissez pas.
C'est une star internationale à ce moment-là. Je ne la reconnais absolument pas.
Vous dites, page 91, j'étais sans doute le seul Pékin au monde à ne pas savoir qu'elle était Flo.
Non, et puis c'est une équipe de télévision finalement qui nous attendait sur le quai. Là, j'ai compris quand même que j'étais le dindon de la farce.
On vous a demandé de sortir du cadre parce que c'est Florence Artaud et Pierre Bachelet.
Moi, je n'intéressais personne à ce moment-là.
Voulait. Dans un instant, on continue à parler de votre livre, Yann Gefelec, La mer et au-delà, et de parler du destin absolument incroyable de cette femme qu'est Florence Artaud. À tout de suite sur RTL.
C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo.
Le journal inattendu sur RTL avec Yann Gefelec et Ophélie Meunier. Le journal inattendu de Yann Gefelec
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux.
Pierre, t'es comme un rocher sur la lande.
Pierre Bachelet et Florence Artaud, parlons de la femme, une femme au destin incroyable. Un premier accident à l'âge de 17 ans qui a failli lui ôter la vie et qui lui a changé la vie d'ailleurs, car c'est à cause ou plutôt grâce à cet accident qu'elle deviendra la navigatrice qu'elle a été. Pourquoi pensez-vous qu'elle a dû se battre, Florence Artaud, toute sa vie pour prouver, pour faire face au regard des autres qui a été impitoyable sur elle,
Oui, alors 17 ans, c'était pas son premier accident. C'est quelqu'un qui n'a cessé d'avoir des accidents. C'est quelqu'un qui a bravé les accidents toute sa vie quand c'était pas la voiture.
En tout cas, premier accident très grave.
Ah oui, gravissime.
Gravissime où elle aurait pu y passer.
Oui, on la croyait perdue. D'ailleurs, elle a été donnée fichue par la faculté. Hein. C'était terminé. Elle ne pourrait plus faire aucun sport. Elle devait rester à la maison. Suivre des études de médecine, épouser un bon parti, donner des enfants et des petits-enfants à sa famille. Enfin bref, son destin était tracé dans un milieu social absolument magnifique. On avait de l'argent, des maisons partout. Il n'y avait aucune raison pour que Florence Artaud devienne Florence Artaud. Et c'est à ce moment-là, je ne sais pas quelle inspiration l'a traversée. D'abord parce qu'elle c'était une femme extrêmement active et remuante, qui adorait la mer, qui adorait la voile, qu'elle a dit à son médecin, et la mer, est-ce que j'y ai droit? Lui, n'y voyant que du feu, a répondu, mais la mer, évidemment, la mer, vous y avez droit. Et c'est à partir de cet instant-là qu'elle est devenue cette espèce d'athlète océanique qui nous a tous stupéfaits.
Ses parents disaient du milieu de la voile qu'il n'y avait pas de place pour les filles dans ce monde, dans ce milieu de cinglés. La voile, c'est un monde très macho, trop. Pourquoi ça n'évolue pas ou peu?
Si, ça commence à évoluer. On a 6 femmes aujourd'hui dans le Vendée Globe. Avant, on avait eu Catherine Chabot.
Sur 37 candidats au départ.
Ouais, Isabelle Autissier. Et non, mais c'est vrai. Parce que c'est un, parce que le loup de mer ne se met pas au féminin, parce que c'est voilà, c'est toujours l'homme qui a pris la mer pendant que la femme élevait les gosses à la maison. Il y a une espèce de cliché du mâle comme c'est qui affronte les éléments et qui va chercher sa croûte à travers les dangers de la mer, qui rapporte les sous à la maison après un détour par le bar tout de même. Mmh. C'est ça qui reste dans l'esprit du mec d'aujourd'hui. C'est un des derniers hauts lieux d'une virilité conquérante que personne n'ose lui disputer. Et là, maintenant, on s'aperçoit que les femmes sont aussi bonnes sur l'eau que les marins eux-mêmes, que les hommes eux-mêmes. Florence Artaud l'a prouvé la première, et elle a sidéré tout un milieu nautique qui l'aimait bien dans les ports, qui voulait bien la voir sur les pontons, qui voulait bien passer de bons moments avec elle. Et puis, lorsqu'elle a gagné, oui, ça a été plus difficile.
Elle l'a eu, en tout cas, sa course. En 1990, elle a remporté la Route du Rhum, et voilà comment elle en parle.
J'ai souffert, il y a des moments, j'ai vraiment eu envie de lever le pied, de laisser aller, d'aller dormir. Et je me disais à chaque fois, bon, bah, tu t'écartes de ton chemin, il faut refoncer, tant pis, t'es crevé, il faut continuer, renvoie de la toile, fais ceci, cela. On a toujours des moments où on en a, mais ras le bol. Moi, à la fin, quand ça allait pas, j'étais sur mon pont, je gueulais, j'injuriais, vraiment, c'était. Et puis bon, après, je me reprenais, j'agissais, on passait à l'action, on continuait. C'est-à-dire que, On a un but à atteindre, c'est aller vite, toujours le plus vite possible, mener son bateau au maximum. Et on n'a pas le loisir non plus de penser à autre chose.
Elle parle bien, hein?
Admirablement bien, et je repensais à ce que vous disiez, c'est aussi la tradition nautique qui est une tradition mâle à travers les âges, quoi. Ce sont toujours les hommes qui ont pris la mer, les pêcheurs, la marine marchande, les masculines, donc il n'y avait aucune raison que des femmes brusquement viennent se mettre à traverser les océans, comme l'a fait Florence Artaud, comme elle vient de nous en parler.
En 2011, une nouvelle fois, elle frôle la mort, elle tombe de son bateau, largade au large du Cap Corse, avec des fameuses bottines roses qui font l'objet d'un chapitre dans votre livre, et d'ailleurs la couverture de votre livre est rose.
Rappelle les bottines de Florence.
Quand on connaît les détails de cet accident, on peut dire qu'en 2011, elle a été une miraculée.
C'est pas croyable. Quand on le raconte, on a l'impression qu'on ment. C'est-à-dire qu'effectivement, elle tombe en mer en pleine nuit au large de la Corse. Elle n'a pas de gilet de sauvetage avec elle. Elle n'a plus qu'à mariner, qu'à barboter et qu'à attendre le destin. Aucun bateau ne passera, c'est sûr. Elle est à 50 km de la côte. Et c'est en se déshabillant pour essayer de rester le plus longtemps possible à la surface qu'elle s'aperçoit qu'il y a un objet carré dans l'espèce de gilet qu'elle porte sur elle, que cet objet carré est un téléphone portable.
C'est un téléphone.
Il n'a plus de réseau. Et bien qu'il n'y ait plus de réseau, qu'il n'y ait plus de batterie dans son téléphone, elle arrive tout de même à joindre sa mère à Paris pendant quelques secondes. Mmh. Et à partir de ces quelques secondes, il y a toute une survie qui se met en place. Et Florence finira par s'en sortir 2 heures plus tard.
Sa mère joint son frère, qui joint les secours. Un hélicoptère arrive et sauve Florence Artaud. C'est franchement un miracle.
Et c'est pas croyable. Florence appelle son frère. Elle arrive à voir son frère pendant quelques secondes. Et pendant les quelques secondes où elle entend son frère Hubert, elle l'entend parler à sa femme et dire « C'est Florence, c'est foutu !» Et elle n'entend plus rien.
À la lecture de votre livre, on est plongé dans les histoires que vous racontez. On sent beaucoup d'émotions et parfois un petit peu de désappointement, notamment à la fin. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais page 241, vous dites « La dernière fois que j'ai vu un hélico d'aussi près, c'était moins une, j'allais me noyer, je te raconterai en arrivant Philippe ». C'est les mots de Florence Artaud en Argentine. Philippe, c'est Philippe Candeloro. Elle parlait de cet accident dont on vient de parler, là, qui a eu lieu en 2011. Finalement, on connaît la fin, je l'ai raconté tout à l'heure. Malheureusement, Florence Artaud est décédée dans cet accident d'hélicoptère en 2015, mais vous lui offrez une autre mort, pas celle qu'on connaît. On laisse le lecteur la découvrir ou vous voulez en parler?
Je ne vais pas en parler complètement, mais en revanche, je vais dévoiler, à soulever un peu un coin du voile. Moi, je ne voulais pas qu'elle meure par le feu. Je trouve cette Florence comme ça, qui est brûlée à la fin de sa vie, ça n'est pas possible lorsqu'on a vécu par l'eau, lorsqu'on a été sauvé par l'eau toute sa vie, y compris lorsqu'elle est tombée au large du Cap Corse. La mer lui a pardonné sa chute et elle est restée vivante. Et elle est restée vivante pour entreprendre une nouvelle course à travers la Méditerranée, l'Odyssée des femmes, course au cours de laquelle les femmes du monde entier auraient pu s'exprimer sur leur époque, sur leur rôle dans la société, sur leur relation avec les hommes. Il y avait un projet absolument magnifique qui, effectivement, a tourné court avec cet accident d'hélicoptère. Mais je me suis arrangé pour imaginer, effectivement, une sorte de... Ce qui est tout à fait plausible, en plus. Elle a très bien pu avoir un flash à la dernière seconde, un flash aquatique. Et c'est la fin de mon livre.
Ce sont les derniers mots du livre. On n'en dira pas plus. On invite les auditeurs à le lire. Dans un instant, le rappel des titres, votre météo. Et on part en Bretagne. Yann Kefelec pour votre reportage inattendu. Merci de nous écouter. Vous êtes sur RTL. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h sur RTL.
Le journal inattendu de Yann Kefelec.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Le verdict est attendu ce soir et les réquisitions sont tombées ce matin. Jonathan Daval, qui a tué sa femme Alexia en 2017, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Cet après-midi, la parole sera à la défense et enfin, l'accusé pourra s'exprimer une dernière fois. Jonathan Daval, 36 ans, a reconnu avoir tué intentionnellement son épouse. Au terme de 6 jours d'audience, la cour se retirera en fin de journée pour délibérer. Verdict à suivre dans nos journaux sur RTL. L'épidémie en France avec quelques indicateurs positifs. Tout d'abord, la réouverture très probable des magasins dès le week-end prochain. Et puis, l'attente des stations de ski pour les vacances de fin d'année. Pour le moment, les gens sont dans l'incertitude et les réservations sont à l'arrêt. Mais le patron de la Compagnie des Alpes, Dominique Marcel, incite les familles à poser des options. Il était l'invité de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL.
Nous sommes prêts. Nous avons mis en place avec l'ensemble des parties prenantes dans un élan collectif sans précédent, les élus, les hébergeurs, les commerçants, les moniteurs, les opérateurs de domaines skiables, des protocoles qui sont vraiment de bons protocoles. Et comme vous le savez, cette année, nous avons mis en place des systèmes qui font que si vous réservez, vous serez remboursé jusqu'à la dernière minute dès lors que c'est une cause Covid. Donc nous aurons le last minute, et j'allais presque dire le last second. Dès qu'on a une décision, je pense que les gens appuieront sur le bouton.
Ça sent déjà Noël dans les maisons. En effet, ça y est, il est possible d'acheter son sapin. Et de nombreux Français se sont rendus sur les points de vente extérieurs dès ce matin pour récupérer l'arbre préféré des enfants. L'année dernière, 6 millions de sapins de Noël ont été achetés en France. Du sport, le foot, avec la défaite hier du PSG contre Monaco lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont perdu 3-2, mais conservent malgré tout la tête du classement. En judo, les Françaises Clarisse Agbegnénou et Margot Pino sont championnes d'Europe dans leurs catégories respectives. Et puis sur le Vendée Globe, le Français Thomas Ruyon a pris la tête de la course en dépassant cette nuit le Gallois Alex Thompson. Et la météo à 13h, c'est notre invité. Alors Yann Kefelec, quel temps fait-il cet après-midi?
Météo fraîche et ensoleillée cet après-midi. Seules les régions proches de la pointe de Bretagne connaîtront un épisode caniculaire avec une température de l'eau avoisinant les 30 degrés dans la rade de Brest. Des masques anti-UV payants seront distribués aux riverains. À prévoir des averses venteuses sur Marseille et Toulon avec un ressenti thermique autour de 0 degré au meilleur de la journée. Il fera 9 degrés à Lyon, 12,5 degrés à Paris, 40 degrés à Cognac et 13 degrés sur l'ensemble du territoire national.
Pour votre première météo, c'était très inventif. Si les auditeurs veulent la vraie météo, rendez-vous à 18h sur RTL. En tout cas, la Bretagne, on voit que vous l'aimez, on sent que vous l'aimez. Un projet de parc éolien est actuellement en cours, en baie de Saint-Brieuc. 62 éoliennes doivent être installées, vouées à produire de l'électricité pour un peu plus de 800 000 habitants. Vous vous posez cette question, Yann Kefelec, de quel droit et par quel subterfuge on s'apprête à installer ces éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, qui est une zone de corail et où il est interdit de forer. Nicolas Bobby, notre correspondant en région, s'est rendu sur place pour rencontrer les acteurs du projet, mais aussi ceux qui le combattent. C'est votre reportage inattendu.
Plus haute que la tour Montparnasse, les 62 éoliennes disposées en 7 lignes seront implantées à 15 km des côtes. Alors, comment est-ce possible? Qui a donné le feu vert? Catherine Poujol, de l'association Gardez les Caps.
La réponse est très simple. En étant hors la loi, il y a des zones Natura 2000. Pour faire ça, il a fallu empiler des irrégularités. En 2012, le ministre Éric Besson a donné l'autorisation d'exploiter une centrale électrique en baie de Saint-Brieuc, alors qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact, pas eu d'enquête publique. Tous les ministres de l'écologie qui ont suivi ont donné des dérogations.
Loïc Chenet-Girard préside la région Bretagne.
Nous n'avons que très peu de production énergétique sur notre territoire, moins de 10%. Il y a 10 ans, nous nous étions mis d'accord entre les élus, les entreprises, les pêcheurs pour se dire que c'était au large, en mer, que nous devions produire notre énergie. Nous payons aujourd'hui le fait que nous sommes dans un système kafkaïen et qu'entre l'accord de tous et la mise en œuvre, il se passe 10 ans. 10 ans, ce sont des nouveaux interlocuteurs, il y a des crispations, des tensions qui sont bien regrettables.
Nouvellement élu, Henri Labbé, le maire de la station balnéaire d'Erquy, ne décolère pas.
C'est vraiment la totale, parce que Erquy est doublement impacté par les éoliennes déjà, et de plus par les câbles qui passent sur une de la plus belle plage de la région. Les éoliennes, on va les voir sans problème. Au début de mandat, il est pollué par ça, en fin de compte. Il faut qu'on se mobilise. Sans ça, on est foutu.
La coquille Saint-Jacques est en danger, les poissons vont fuir, la pêche côtière est menacée. Jonathan Thomas, patron pêcheur à Saint-Quay-Portrieux, a le sentiment de se battre contre des moulins à vent.
On a été voir des politiciens, on dit qu'on nous écoute, au final, on ne nous écoute pas. C'est prouvé clairement qu'il y a des grosses répercussions sur les espèces maritimes et tout. C'est prouvé scientifiquement, il y a tellement d'argent en jeu derrière avec l'Europe qui suit, tout le monde s'en fout, quoi.
220 bateaux, 500 familles vivent de la coquille Saint-Jacques. Alain Coudray préside le comité des pêches des Côtes d'Armor.
Ça va être un champ de patates, hein. Tout va être retourné. Tous les coquillages, tous les bulots, les palourdes, les petites crevettes, tout ce qui nourrit le poisson dans cette zone-là va être remué.
Porteur du projet, Iberdrola, le géant espagnol, n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais Catherine Poujol en a une pour vous, Yann Kefelec.
Est-ce que vous voulez écrire un roman sur ce qui se passe en baie de Saint-Brieuc depuis 10 ans ?
Non, j'ai pas envie d'écrire un roman, mais j'ai envie de dire ce que vous êtes en train de dire, en ajoutant qu'il s'agit d'un formidable scandale financier, orchestré bien entendu par la société Iberdrola, à qui l'État français va racheter 180 euros le mégawatt qui en vaut 30 lorsqu'il est produit par une centrale nucléaire, le delta étant fourni naturellement par le contribuable, qui de toute manière va voir sa facture d'électricité doubler dans les années qui viennent. On ne sait absolument pas pour quelle raison, simplement on se rend parfaitement compte que des milliards qui pourraient être placés par exemple dans les hôpitaux ou ailleurs, eh bien vont partir en fumée, vont partir dans ce vent qui consiste en un massacre de l'horizon. Alors on est en train de pleurer sur la mort de Notre-Dame, ce que je comprends parfaitement, je pleure le premier, mais pleurons également sur le massacre de l'horizon, sur le massacre de la beauté du monde. Un paysage, c'est un domaine sacré, ça n'est pas simplement comme quelque chose de vide, c'est chargé de quelque chose d'immense que chacun vient apporte lorsqu'il regarde la mer. On n'a absolument pas le droit de détruire les paysages comme on le fait. On appelle ces éoliennes, on appelle ça de l'offshore. En fait, elles sont construites à 16 km de la côte, 210 mètres de haut, tout le monde va les voir, elles vont être 62. C'est une honte qu'on le dise, Iberdrola a arrosé tous les clubs nautiques, tous les clubs de boules de la région, toutes les mairies qui ne sont pas du bord de la mer, tout cela pour obtenir une espèce de formidable motus et bouche cousue. L'État ferme les yeux, il faut se révolter.
Mais vous seriez d'accord pour que ce parc soit installé plus loin, plus au large des côtes ?
Je pense déjà qu'il faut envisager un moratoire, se mettre raisonnablement autour du monde, compter les sous, hein, parce que ce sont les sous du contribuable qui sont en question, on n'en parle absolument jamais. Et ensuite, voir effectivement comment on peut revenir déjà sur ce projet, annuler ce projet tel qu'il est. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a des bulldozers profitant du fait que les plages sont inaccessibles aux riverains, qui sont dévastés par ces bulldozers qui passent dans des lieux qui sont des sites gallo-romains et néolithiques. On n'a pas le droit d'y aller, théoriquement c'est protégé, ça ne l'est pas, on ne dit rien.
Alors au niveau du parc, on en est à l'étape de l'étude des fonds marins et la mise en exploitation est prévue en 2023, pour préciser. Le message est passé. La Bretagne a toujours été au centre de votre vie, la musique aussi. On entend l'air de la comtesse de la Dame de Pique de Tchaïkovski. Qu'est-ce que vous évoque cette musique ? Je voulais adoucir un petit peu votre cœur.
Cette musique, eh bien, elle était jouée au piano et chantée par ma mère lorsque j'étais petit garçon. Donc c'est une des premières musiques que j'ai pu entendre dans ma vie. Je la trouve bouleversante. C'est une chanson française qui est due à Grétry et qui est utilisée par Tchaïkovski dans l'opéra La Dame de Pique. Et j'ai des frissons et je repense à ma mère chaque fois que je l'entends.
Yann Kefelec, il paraît que vous êtes aussi un vrai épicurien comme on n'en fait plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre ami Antoine Westermann, grand chef, et il est notre invité dans un instant. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu de Yann Kefelec
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Alors parmi vos passions, il y a la mer, la Bretagne, la musique, on en a parlé, et il y a aussi les bonnes tables. Votre invité est avec nous, Yann Kefelec. Bonjour Antoine Westermann, bienvenue.
Bonjour, bonjour Yann.
Bonjour mon cher Antoine, je suis ravi de t'entendre.
Alors Antoine Westermann, vous êtes anciennement chef du fameux Drouan. En 2012, vous avez ouvert le Coquericot, bistrot parisien à Montmartre où l'on mange de la bonne volaille. Yann Kefelec, vous adorez les plaisirs de la table et vous teniez à donner la parole à votre ami Antoine Westermann aujourd'hui. Alors pourquoi ?
Pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire Antoine est un extraordinaire cuisinier, c'est pas simplement quelqu'un qui vous sert à manger, c'est aussi un génie comme ça de la table, et de la table amicale. Ce que j'adore avec Antoine, c'est que non seulement on se nourrit bien, mais on est dans un climat d'amitié qui peut durer longtemps. Donc aussi bien chez Drouan, où chaque année, au moment du Goncourt, il organisait une fête pour ses amis absolument superbe, juste en dessous de la table des jurés Goncourt qui avaient le même menu que nous. Pendant ce temps-là, nous faisions la fête en dessous. C'était extraordinaire. Malheureusement, c'est fini pour l'instant.
Pour l'instant, on espère. Alors justement, la situation des restaurateurs est préoccupante. Antoine Westermann, comment vous vivez ce confinement ? Et je crois que pour le Coquericot, vous avez installé, mis en place une livraison, de la vente à emporter. Mais voilà, c'est compliqué en ce moment pour les restaurateurs. Que pouvez-vous nous en dire ?
Voilà, c'est ce que vous dites, la mise en place pour les ventes à emporter, pour que les gens puissent venir chez nous aussi chercher ce dont ils ont envie. Je pense que c'est de notre devoir d'être présent et non pas de dire on ferme parce que ça ne vaut plus la peine. Non, au contraire, on retrousse les manches et j'espère que bientôt, je dirais, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir parce que j'y crois pas. Mais je pense que ceux qui ont l'idée de faire ce qu'ils font, nos gouvernants, c'est-à-dire qu'un jour ils vont pas regretter que la cuisine, la restauration, les bars, les brasseries, tout ça existe et que ça fait vraiment partie de la vie.
La réouverture des restaurants, ça pourrait ne pas être avant janvier. Beaucoup de grands chefs se mobilisent, Antoine Westermann, et poussent des coups de gueule dans les médias. Vous pensez que c'est utile ? Est-ce que cela peut aider ?
Écoutez, je pourrais être un énième qui pousse un coup de gueule, comme vous dites. Bien sûr qu'il faut se faire entendre. Mais bon, malheureusement, quand on regarde autour de nous, les pays européens, je veux dire, il n'y en a pas qui n'ont rien et d'autres qui ont tout. Alors, faisons pour le mieux et j'espère, comme dit, avec grâce à des amis comme Yann Kefelec, on reprendra pied parce que la vie, c'est ça, quoi. C'est partager les joies de la table et toutes les autres joies. Et avec Yann, je veux dire, on est en train de faire notre programme, je le fais en direct à la radio, pour les prochaines festivités.
Ah, c'est vrai. Là, vous pouvez nous dévoiler les prochaines festivités qui sont prévues, tous les deux ?
Ben, on espère que ça va aller. Yann, vas-y, dis-le.
Ah, mais bien sûr, il est prévu qu'on se voit vite, qu'on passe à table. Et lorsqu'on passe à table avec Antoine, on ne sait jamais quelle surprise vous attend. Parce que c'est tout de même un chef triétoilé, Antoine Westermann, ne l'oublions pas.
Absolument.
Et ce qui sort de ses mains de façon complètement inattendue lorsqu'on est à table avec lui, ça vous met les larmes aux yeux. Enfin, c'est inouï.
Antoine Westermann, je sais que vous dévorez les livres de Yann Kefelec et vous vous êtes plongé dans la mer et au-delà. Vous l'avez fini, ça y est ? On s'en est parlé il y a quelques jours, vous étiez en train de le lire.
Eh bien écoutez, non, je veux dire la vérité, je n'ai pas fini.
Ah.
Et vous savez pourquoi ? J'ai envie de dire à l'antenne, tous, ce livre est magique, mais dévorez-le avec douceur et lentement. Donc, je fais partie de ces gens qui, tous les jours, savourent deux pages.
Mais j'aime bien ça. Moi aussi, je fais comme ça lorsque je lis un livre que j'aime. J'ai envie que ça avance, mais pas trop vite non plus. Je retarde le moment de la fin.
Alors, justement, on en parlait. Vous aimez tous les deux vous retrouver autour de bonnes tables, faire la fête. Vous auriez pu, par exemple, après une bonne émission de radio, vous retrouver et faire un bon gueuleton. Si Florence Artaud avait été là, autour de cette table, il y aurait eu aussi de la musique. Et ça aurait pu être ça.
On me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme.
Johnny Hallyday. Florence Artaud adorait Johnny Hallyday, et vous aussi d'ailleurs, Yann
Kefelec. Ouais, moi je suis en dingue de Johnny, moi, j'ai des frissons sur la peau lorsque j'entends Johnny. À un moment j'ai failli écrire des chansons pour lui, ça ne s'est pas fait, franchement je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, c'est extraordinaire d'être chanté par Johnny.
Est-ce que c'est aussi facile d'écrire une chanson qu'un livre ?
Non, c'est mille fois plus dur d'écrire une chanson. Je ne sais pas comment Gainsbourg a fait pour écrire, par exemple, Laetitia, à partir de Elle là, eux dans là. C'est prodigieux. Ici.
C'est aussi une de vos chansons préférées.
C'est aussi une de mes chansons préférées. C'est la page blanche, là, cette petite page de rien du tout sur laquelle il faut jeter trois mots qui deviendront inoubliables pour la planète entière. Ça, c'est... Non, c'est impossible.
Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A, E dans l'A, T-I-T-I-A.
C'est ma douleur. Ça nous a mis l'eau à la bouche d'être avec vous, Antoine Westermann. Et ça nous a donné le sourire d'entendre Johnny Hallyday et Gainsbourg. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Le coquerico, c'est possible d'être livré et de manger de la bonne volaille. Merci Antoine Westermann, bon week-end. Dans un instant, une petite surprise vous attend. Yann Kefelec, quelqu'un qui vous connaît aussi très bien. Et vous laisserez un message à une personne de votre choix. On se retrouve juste après ça.
Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Le journal inattendu de Yann Kefelec
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Béla Bartok, Allegro Barbaro, c'est... Un choix musical aussi de votre part. Vous êtes aussi un très bon joueur de piano, Yann Kefelec. À quelle occasion vous jouez ?
Moi, je suis un très bon joueur de piano. Je vais peut-être pas dire ça comme ça parce que j'imagine que ma sœur nous écoute en ce moment, comme c'est une des plus grandes pianistes du monde. Je me sens quand même un peu palichon à côté d'elle sur le clavier. C'est vrai que j'ai aimé jouer l'Allegro Barbaro lorsque j'étais beaucoup plus jeune. C'est un morceau que révolté, qui me ressemblait bien, qui est une sorte de rébellion contre tous les ordres établis. Et je me suis longtemps identifié à ce Béla Bartok comme ça qui est. Comme a pu le faire Florence Artaud, qui voulait dire non chaque fois qu'on voulait lui dire non, qui disait non au nom des autres. Et en plus, c'est une musique de toute beauté.
Dans la mer et au-delà, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez écrit pendant le premier confinement. Vous parlez aussi de cette situation de cette année 2020, de l'épidémie et du virus, avec un vocabulaire étonnant. Ça nous donne presque le sourire et ça fait du bien. Par exemple, Covid-19, vous l'appelez Fantomas-19. Vous dites... Qu'avant, ceux qui se lavaient les mains, c'était les chochottes en sortant des toilettes. Bon, c'est quand même plutôt une bonne habitude que de se laver les mains après avoir été aux toilettes.
Je ne dirais pas le contraire. J'ai été assez chochotte, moi aussi, il ne faudrait rien vous cacher.
Comment vous la vivez ? Comment vous l'avez vécu cette année 2020 ?
Je l'ai vécu. J'ai une amie l'autre jour qui m'a dit, je vais très bien en ce moment, sauf que j'ai le mal de mer. Eh bien, moi aussi, je vais très bien, sauf que j'ai le mal de mer. On ne peut pas aller bien dans un monde qui va aussi mal, dans un monde aussi perdu, aussi chancelant. Et en même temps, c'est vrai qu'à ce monde perdu et chancelant, il faut apporter une note d'optimisme, même une forte note d'optimisme, conserver l'espoir et croire que les choses vont s'arranger, ce qu'elles vont faire tôt ou tard. Il faut surtout pas accompagner ce mouvement de morosité. Il faut être heureux. Il faut voir ses amis ou les écouter, il faut partager de bons moments de table avec Antoine Westermann si possible, et quand ça n'est pas donné à tout le monde, il faut faire de la bonne cuisine de son côté ou apprendre à faire.
Vous dites dans le livre pas de confinement en 2021, on l'espère, bon, c'est plutôt mal parti, c'est quand même une option qui reste tout à fait envisageable, hein. Vous serez prêt à être confiné début 2021
oui, enfin,
et éventuellement réécrire un très beau livre.
Sans de toute manière, je
me suis déjà attelé
à mon prochain livre, j'espère qu'il sera beau, je me suis attelé à mon prochain livre, mais le confinement actuel est un confinement relativement léger. On peut sortir, par rapport à ce qu'on a vécu.
Ce livre, je le rappelle, vous l'avez écrit il y a à peine quelques mois. N'êtes-vous pas impressionné par la vitesse à laquelle la société change et évolue en ce moment ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce qui est sidérant, c'est la capacité d'adaptation de l'homme à des situations totalement imprévisibles. Moi, j'aurais jamais pu penser, il y a encore un an, que nous allions tous porter des masques et trouver cela normal, que nous vivrions dans une société sans bouche et sans sourire, que nous serions obsédés comme ça par un lavage de mains hydroalcoolique permanent. C'est très très étonnant. Et en même temps, c'est aussi à l'honneur de l'homme. Ça veut dire que l'homme ne se laisse pas dépasser par les événements lorsqu'ils sont néfastes. C'est Bonpassant qui disait « La vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. » Et dans ce très mauvais, on s'aperçoit qu'on va tout de même s'efforcer de passer de bonnes fêtes de Noël. Je dis cela, en même temps, j'ai une pensée aussi pour tous ces gens qui sont dans la misère économique aujourd'hui, dont on ne se rend pas compte qu'ils traversent une période impossible sur le plan pécuniaire.
Il y en a un, en tout cas, qui voit aussi le verre à moitié plein. C'est un de vos amis, il vous connaît très bien. Il est en ligne avec nous. Bonjour Gérard Fromanger.
Oh non, sans blague. C'est pas possible. Non.
Bonjour.
Non, c'est pas vrai.
Alors pour tout vous dire, je demandais à Yann Kefelec il y a un instant s'il avait une petite idée de qui aurait pu être en ligne au téléphone avec nous pour sa petite surprise. Il m'a dit « Oh, j'ai aucune idée ». Je lui ai assuré que ça lui aurait fait très plaisir.
Oh non, mais je suis fou de bonheur, Gérard, mais c'est pas possible. Si tu savais comme j'aimerais te voir, parler avec toi, parler de ta peinture, c'est le plus grand peintre du monde, Gérard. Et ce mot peintre, je pense qu'il ne l'aime pas tellement. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé la ligne qui n'existe pas, qui a inventé toutes les couleurs avec deux couleurs ou deux ou trois couleurs. C'est un homme qui défie les siècles et les millénaires. Léonard de Vinci l'aurait adoré, on l'aimera encore dans 1000 ans, enfin c'est inouï.
Ça va, Gérard Fromanger, ça fait du bien d'entendre tout ça.
Mais c'est vrai.
Alors, parlez-nous d'Yann, Gérard Fromanger, maintenant qu'il l'a fait de manière aussi incroyable, avec des mots aussi beaux.
C'est très difficile d'être à la hauteur de ce qu'il vient de dire. C'est un conteur extraordinaire, un inventeur de mots et de vie formidable. Il donne envie à tout le monde d'être ce qu'il dit. Écoutez, j'ai connu Yann il y a une bonne vingtaine d'années sous un de mes tableaux. Il était assis, c'était chez un éditeur qui s'appelait Philippe Moncel, dans le Cercle d'Art. Et quand je suis rentré pour mettre en route un bouquin sur mon travail avec ce Cercle d'Art, il m'a sauté dans les bras, il m'a dit « Ah, c'est toi !» Il m'a tutoyé tout de suite. « J'adore ta peinture, c'est fantastique !»« Oh, il faut qu'on parle !» Le même discours qu'il vient de tenir pour moi, là, maintenant. Et ça fait 20 ans que ça dure.
Mais tous les jours, moi, je regarde du Gérard Fromanger. Pour moi, il a réinventé le regard sur les tableaux. C'est assez... On peut rester indéfiniment devant des images infiniment simples de Gérard, parce que c'est l'homme qui exalte la simplicité sur cette chose impossible qu'on appelle voilà, une surface blanche. Et à partir de là, mais on rêve indéfiniment. Moi, je suis fou de bonheur de t'avoir en ce moment en ligne, mon cher Gérard. Et j'ai hâte de te voir. Parce qu'en plus, il a connu Picasso, il a connu Prévost. Vous entendez cette voix de jeune homme, mais il a 80 ans, enfin c'est pas croyable.
81 ans Gérard Fromanger, vivement que les musées rouvrent, vous avez une actualité chargée, 4 expositions en cours à Caen, en Arles, à Lausanne et à Shanghai, et vous venez d'inaugurer un plafond au Théâtre des Bouffes du Nord. Restez avec nous Gérard Fromanger, je suis sûre que Yann Kefelec va être très heureux de continuer à vous parler juste après cette émission. À la fin du journal inattendu, mon invité a l'occasion de laisser un message à une personne de son choix, vous avez 30 secondes pour le faire. Yann Kefelec, à qui avez-vous choisi de laisser un message aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai choisi de laisser un message, comme je suis un peu mégalo, au président de la République, que je ne connais pas encore.
C'est à vous.
S'il vous plaît, cher président Macron, faites inscrire la sauvegarde de l'horizon marin du Cap Fréhel dans les urgences climatiques des accords de Paris. Vous sauverez la planète, les hommes... Et les milliards, et ces milliards ne demanderont pas mieux que de fournir des lits médicalisés et du personnel aux hôpitaux.
Si le président nous répond, on ne manquera pas de faire passer le message. Merci Yann Kefelec, La mer et au-delà. C'est disponible aux éditions Calman Lévy, une évasion et un hommage magnifique à Florence Artaud. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur notre nouvelle application RTL ou sur RTL.fr. Tout de suite, c'est confidentiel avec Jean-Alphonse Richard consacré à Phil Spector. La semaine prochaine, mon invité Alain Souchon. Passez un excellent week-end et à samedi prochain 12h30.
Le journal inattendu sur RTL.